Justine Breton, qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, docteur en littérature médiévale et agrégée de lettres modernes, très connue pour ses travaux sur Camelot et qui va nous parler aujourd'hui de Game of Thrones, pour changer, très bien, voilà. En fait, et qui a écrit également sur Sacré Graal, sur des choses comme ça. Et elle a également co-dirigé. Ah, c'était celui-là, c'était pas William
avec
Blanc.
Florian.
Voilà, avec Florian Besson, si ma mémoire est bonne, je ne me trompe pas. Je deviens bon. Un livre qui s'intitule donc Camelot, un livre d'histoire, et qui est là-bas sur la table, qui retrace donc la relecture de l'histoire antique et médiévale proposée par la série de Canal+. Donc Justine, je te laisse la parole sur When You Look at Me, Do You See a Hero, Game of Thrones ou La Fantasy des Évincés de l'Histoire. Donc quand je reviens, il te reste 5 minutes.
Oui, chef. Merci. Merci beaucoup, Christian, et merci aux organisateurs, aux organisatrices de m'avoir permis d'être ici. Et merci à vous tous de votre patience. Évidemment, je parle, l'orage revient. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez marre, s'il se met à pleuvoir, si vous ne m'entendez plus, vous me faites des grands signes, voilà, que je vois un petit peu l'angoisse dans vos regards. J'ai choisi de m'intéresser aujourd'hui, donc pour changer un petit peu de Camelot, à l'histoire dans l'univers fictionnel de Game of Thrones. Par ce nom de Game of Thrones, pour simplifier aujourd'hui, je désignerai à la fois la saga romanesque de George R. R. Martin, donc A Song of Ice and Fire, et la série de HBO, diffusée depuis 2011, les deux proposant des récits partiellement divergents et toujours en cours actuellement. Étudier le récit historique dans Game of Thrones amène à mettre en évidence les enjeux politiques et narratifs de l'histoire, pour voir comment la saga fragmente peu à peu l'histoire, avec un grand H, pour mieux valoriser les histoires. Alors c'est cette transition vers ce que j'ai appelé une fantaisie des évincés de l'histoire que j'ai souhaité analyser ici. Et pour cela, je verrai d'abord les fonctions politiques d'un bon récit, afin de se poser la question un petit peu des auteurs et des acteurs de l'histoire dans Game of Thrones. Cela permettra de voir dans un second temps l'altération du modèle héroïque dans toute la saga. Et enfin, je chercherai à enfoncer un petit peu des portes ouvertes et à montrer comment Game of Thrones renoue avec les codes de la fantasy et comment l'œuvre de George Martin s'inscrit bien dans une vision traditionnelle mais plurielle de la fantasy. George Martin décrit son œuvre A Song of Ice and Fire comme a narrative centered on war and power. Alors, en effet, on note la prédominance du thème guerrier dans son texte, hein, thème guerrier qui occupe les personnages principaux, dont l'immense majorité appartient à la noblesse et demeure proche des cercles dirigeants. La construction initiale de l'histoire, lorsque la saga débute, s'appuie sur un récit national qui est donné comme un fait établi. Voilà l'histoire officielle que l'on nous donne dans Game of Thrones. La dynastie des Targaryens régnait sur les royaumes de Westeros jusqu'à ce que Rhaegar Targaryen, prince héritier, décide d'enlever Lyanna Stark qui était promise à Robert Baratheon. Il s'agit donc ici d'un double acte de violence, une violence personnelle d'abord envers la jeune femme enlevée, et violence politique, puisque Rhaegar étant le futur souverain, il incarne en ce sens les sept royaumes. C'est en réponse à cette violence que Robert Baratheon va mener une rébellion pour sauver Lyanna, rébellion rapidement soutenue par des familles puissantes, qui y voient l'opportunité de renverser le pouvoir des Targaryens établi depuis des siècles. Il s'agit donc ici, dans ce récit officiel, du récit d'une agression initiale vengée par un héros bafoué, Robert Baratheon, qui va être présenté comme un sauveur des royaumes car il est parvenu à renverser le pouvoir tyrannique d'une dynastie atteinte de folie meurtrière. Robert Baratheon monte sur le trône et emploie ce récit comme justification de sa rébellion et donc de son autorité royale. Car, comme on le sait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Robert Baratheon et les grandes familles qui se sont alliées à lui diffusent alors cette version des faits qui va permettre de garantir leur pouvoir. Or, et c'est là que c'est surtout intéressant, Game of Thrones va peu à peu briser ce récit bien commode. Une série de révélations plus ou moins publiques dans la diégèse viennent ébranler l'autorité royale en remettant en question l'histoire officielle. En effet, presque tous les personnages ignorent la donnée initiale, qui est que Lyanna Stark n'a pas été enlevée, mais qu'elle s'est apparemment enfuie volontairement pour épouser Rhaegar Targaryen. Par conséquent, cette fugue amoureuse a été menée en secret du fait des fiançailles déjà établies de Lyanna et d'un mariage déjà existant de Rhaegar. Mais donc ce qui était perçu comme un acte de violence ostentatoire de Rhaegar envers Lyanna se révèle donc en réalité être un acte d'amour secret mais consenti. Par conséquent, la justification politique de la rébellion s'écroule. Alors, de façon intéressante, la dissimulation de la version réelle des faits n'est pas ici due au vainqueur de l'histoire, mais à ses victimes. Si beaucoup meurent pendant la rébellion, hein, c'est quand même une guerre, certains ont toutefois connaissance de la réalité des faits, mais vont conserver un silence protecteur pendant des années. C'est notamment le cas de Ned Stark, frère de Lyanna, qui maintient le récit fallacieux pour protéger l'enfant né de l'union amoureuse de Lyanna et de Rhaegar. Alors que presque aucun des personnages de la diégèse n'en a conscience, l'histoire, au sens de récit national officiel, est ici écrite par les vaincus, et notamment par Lyanna Stark, devenue par mariage Lyanna Targaryen, un personnage donc féminin qui n'a pourtant jamais la parole. Dans la série, et plus encore dans les romans, la lente érosion de l'histoire officielle se fait au profit d'une revanche de ce que j'ai appelé les évincés de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui traditionnellement n'ont pas accès à la parole, n'ont pas de rôle actif dans le royaume, mais n'ont le plus souvent qu'une fonction de pion. Pensons au cas de Sansa Stark, héritière apparente de tout le nord du royaume, et que tous cherchent à marier pour pouvoir contrôler le territoire, ou dans les romans, c'est le cas également de Jane Poole, que tous font passer pour Arya Stark dans la même logique. Game of Thrones fait ainsi évoluer au sein de son univers fictif la notion de héros. Alors pour cette communication, j'ai choisi pour titre « When you look at me, do you see a hero ?» qui est une citation du personnage de Varys, qu'on voit ici à gauche, qui est donc adressée au seigneur Ned Stark, que l'on voit à droite. C'est-à-dire, c'est une citation de l'eunuque adressée au chevalier, qui a lieu au moment charnière où Game of Thrones va passer d'un modèle héroïque à un autre. Game of Thrones s'appuie, on le sait, sur de nombreux éléments historiques et littéraires, sur toute une tradition qui a longuement et souvent brillamment été étudiée. Je passerai là-dessus pour aller un peu plus vite. La saga part d'ailleurs d'un modèle historique et littéraire traditionnel, notamment dans sa représentation des héros, représentation que l'on peut très rapidement diviser en deux images opposées. En effet, dans Game of Thrones, on a tout au début l'affrontement de deux grandes familles, les Lannister et les Stark, chacune représentée par son héros. Alors à gauche, vous pouvez voir Jaime Lannister, et à droite, Eddard, dit Ned Stark, qui sont deux figures traditionnelles du chevalier, qui sont placées dans Game of Thrones dans une logique extrêmement manichéenne. Alors, il est vrai que George Martin construit peu à peu la complexité de ces personnages, et leur ambiguïté morale d'ailleurs, mais dans un premier temps, l'opposition est très nette entre ces deux figures de chevalier. Et si on s'appuie sur le tout premier épisode de l'adaptation sérielle, ça insiste bien sur cet aspect, où on va avoir d'un côté Ned Stark, un homme effacé et pourtant excellent guerrier, un homme honnête, droit, bon père de famille, avec toutefois sa part de faiblesse, voilà, un héros comme on s'y attend dans un texte médiéval ou dans un texte de fantasy dans une certaine mesure. De l'autre côté, on trouve Jaime Lannister, sorte de monstre cruel aux allures de prince charmant à peu près, puisque dans le premier épisode, alors je crois que c'est à peu près dans l'ordre, mais on le voit contribuer à la débauche de son frère, se montrer irrespectueux envers ses hôtes, entretenir une relation incestueuse avec sa sœur jumelle et tenter d'assassiner un enfant. En apparence, pourtant, il est bien tout ce que l'on peut attendre du chevalier idéal, du prince charmant, du knight in shining armor, ce que Ned Stark pourra lui reprocher d'ailleurs. Ces deux images du chevalier médiéval doivent toutefois être étudiées en parallèle, ici, d'abord parce que le récit nous y invite, mais aussi parce que ces deux images permettent une reprise des codes de la littérature courtoise, mais qui apparaissent ici sous une forme détournée, plus exactement sous une forme corrompue. Je m'explique. J'ai du suspense comme ça, c'est là. l'existence de Ned Stark et de Jaime Lannister est régie par l'amour d'une dame qui leur est inaccessible. Dans le cas de Jaime, il est poussé dans ses actions par l'amour tabou pour sa sœur Cersei, qui provoque une foudre divine apparemment. Et dans le cas de Ned, il est poussé dans ses actions par la promesse faite à sa sœur Lyanna de veiller sur son enfant. Donc pour des motifs différents, leur vie est motivée par leur amour pour leur sœur dans un détournement de la tradition courtoise. On a bien ici un amour pour une dame inaccessible, mais dans une conception tout à fait différente ici. Ce modèle héroïque et médiéval ne s'avère pourtant pas viable dans la fantasy de Game of Thrones. L'image trop honnête du chevalier incarné par Ned est évincée et surpassée par celle du Knight in Shining Armor, Jaime, qui, à son tour, va pourtant perdre tout pouvoir. Et on va voir alors apparaître dans Game of Thrones un nouveau modèle héroïque, qui est un modèle de héros issu des contes. L'évolution de la notion de héros dans Game of Thrones souligne bien les liens essentiels que cette fantasy peut entretenir avec nos contes traditionnels. En effet, la saga va chercher à mettre en avant des héros qui, à première vue, n'en sont pas, en fait, tout simplement. Alors, certes, je sais, cela est traditionnel de la fantasy, et je reprends les propos de Brent Hartinger, pardon, qui explique « You could argue that the whole genre, donc le genre de la fantasy, is built on a very specific kind of outsider, the dispossessed king or exiled prince determined to reclaim its throne. » Effectivement, là, on a des images qui nous apparaissent tout de suite dans Game of Thrones, et notamment le cas de Daenerys Targaryen, qui correspond parfaitement à ce schéma. Dans le roman, on a aussi la figure de Aegon, qui suit la même logique, dans un schéma qui reprend les grandes lignes de Joseph Campbell. Mais George Martin va plus loin, en proposant dans son récit des héros qui sont véritablement des héros de conte. Alors, si on s'intéresse un petit peu à la définition, une des définitions du conte, Pierre Péjus rappelle que le conte revient souvent à la mise en scène des aventures d'un jeune héros, enfant ou adolescent, qui mal parti dans l'existence où il est haï, poursuivi, persécuté, affecté d'un défaut physique ou social, finira par atteindre le bonheur, état presque toujours associé à la puissance, c'est-à-dire à la royauté, à la richesse, c'est-à-dire un trésor inépuisable, ou au mariage. C'est l'histoire du petit faible et désavantagé qui deviendra à la fin le plus fort et le plus riche. Effectivement, un schéma assez traditionnel de conte, et tout de suite, d'autres figures apparaissent dans Game of Thrones, et on pense notamment au cas de Jon Snow et de Tyrion Lannister. Mais Game of Thrones va multiplier ces figures d'outsiders. Je vais passer rapidement, mais dans les romans, on a le point de vue des personnages qui est présenté à travers différents chapitres, chaque chapitre étant dédié à un personnage. Et donc, sur les 31 personnages qu'on appelle points de vue qu'on a actuellement, sur ces 31 personnages, 9 correspondent véritablement à cette définition d'outsider et de marginaux. Et 9 y correspondent, alors ce que je dirais en partie, vous savez, on a des membres de la garde de nuit, donc qui sont exclus de la société. On a des personnages féminins qui, traditionnellement, n'ont pas autant accès à la parole dans la littérature médiévale ou dans la fantasy. Et pourtant, ces 18 outsiders représentent quand même 83% du nombre total de chapitres, ce qui est quand même assez conséquent. Et à cela s'ajoutent encore tous les personnages qu'on appellera secondaires, ceux qui n'ont pas accès au point de vue, mais qui sont très présents, qui sont plus ou moins présents d'ailleurs dans l'intrigue, mais comme Varys, Renly ou Donald Noy, tous ces personnages. Ce qui montre bien que les marginaux ne sont pas uniquement les héros, mais qu'ils sont pleinement intégrés au personnel narratif. L'immense majorité de l'histoire est alors prise en charge par des personnages qui souffrent, on pourrait dire qui souffrent d'un manque. Et on retrouve ici la structure traditionnelle du conte, où le héros part bien d'un manque ou d'un méfait à réparer. Dans Game of Thrones, il y a même cette... vous savez, là, on parle souvent de l'atmosphère de violence, hein, cette horreur qu'on a parfois dans Game of Thrones. Et cette atmosphère de guerre et de violence va elle-même contribuer à cette esthétique de conte. En effet... de nouveau, je m'appuie sur les propos de Pierre Péjus qui explique que souvent ce sont ces moments de l'horreur, de la terreur et du tremblement qui ancrent définitivement les contes dans notre souvenir. Bon, je passe le reste de la citation, mais effectivement, dans Game of Thrones, on a des moments qui sont, je pense, bien marqués. Si vous avez lu les textes ou regardé la série, que ce soit le Red Wedding, la mort d'Oberyn, on a des scènes comme ça assez choquantes, mais qui contribuent à cette esthétique. Ce modèle de héros inspiré des contes est présent en germe dès le début de Game of Thrones, Mais ce qui est intéressant, c'est que sa valorisation va être retardée par une volonté affichée de l'auteur de brouiller les pistes. En effet, George Martin a annoncé hein, depuis qu'il avait conçu le début de son œuvre pour que le lecteur, et par la suite pour que le spectateur, soit amené à penser que Bran Stark allait être un héros traditionnel de fantasy. Or, en tout cas pour le moment, Bran n'est, alors on va dire, qu'un adjuvant dans la quête générale qui vise à redonner une stabilité politique à Westeros, si tant est que c'est bien là la quête principale de l'œuvre. Comme on n'a pas la fin, ça reste un petit peu compliqué. Du modèle médiéval au modèle issu des contes, deux conceptions opposées de l'histoire et de la notion de héros se succèdent dans Game of Thrones et laissent apparaître une fantaisie qui finalement n'est peut-être pas aussi sombre qu'elle le laisse paraître. C'est ce que j'ai appelé la fantaisie des Crippled Bastards and Broken Things, du titre d'un épisode. La représentation progressive des évincés de l'histoire se construit en trois temps qui élargissent peu à peu la notion de héros. On a d'abord, alors je passerai rapidement, mais une image issue de la littérature courtoise et de la littérature épique, où l'histoire est un récit glorieux, écrit par les vainqueurs, voilà, quelque chose de très traditionnel. Cette image va être par la suite détrônée par une image alors que j'ai envie de qualifier de machiavélique, une image inquiétante, mais certainement en fait, plus proche de notre réalité politique contemporaine, une image représentée par des figures comme Tywin Lannister ou comme Peter Baelish, par exemple. Personnage beaucoup plus manipulateur. Et pourtant, cette image se fissure peu à peu pour céder la place à une logique de conte qui valorise, alors ce que j'ai appelé hein, les laissés pour conte, on voit que Game of Thrones, en fait, se plaît à entretenir des clins d'œil à des récits traditionnels, que ce soit Cendrillon, Le vilain petit canard ou Le petit poucet. Cette place des évincés de l'histoire est peu à peu construite en réaction contre la domination excessive des traditionnels héros et contre une histoire fallacieuse. Cette évolution est rendue possible par la multiplication des points de vue que l'on a notamment dans les romans, qui permet au lecteur d'avoir accès à une identification décentrée. Alors, c'est ce que... je suis désolée de la prononciation. Elle Canic Abstrup, je suis pas sûre que le nom se prononce comme ça, mais elle explique...
On est même sûr que c'est
pas comme
ça.
On est sûr, ne m'en voudra pas, j'espère. Qui explique... This use of character makes possible a more diversified and ambiguous moral fantasy in which there is no one hero saving the day, but rather many unlikely heroes as well as villains. On passe ici d'un héros unique à une pluralité de héros qui n'agissent pas nécessairement dans un but commun. C'est là que c'est intéressant aussi. Dans Game of Thrones, on a plusieurs fils narratifs qui émergent à des moments différents. Alors, par exemple, dans les romans, le point de vue de Jaime n'apparaît qu'à partir du troisième livre. On a des fils narratifs qui se croisent, d'autres qui disparaissent pendant de longs moments. Hein. Pensons à Bran Stark qui disparaît complètement de là, je crois que c'est la cinquième saison. Voilà. Les histoires sont mêlées de façon à ce que le lecteur et ensuite le spectateur ne puisse pas véritablement distinguer celles qui iront jusqu'au bout, globalement. C'est ce qui est souhaité, en tout cas. La subtilité de l'œuvre n'est pas de subvertir les codes de la fantasy, mais de brouiller les pistes en s'appuyant sur différentes représentations de l'histoire. Et on retrouve bien dans Game of Thrones l'ancrage pluriel de la fantasy qui emprunte à la fois au mythe, à l'histoire, au conte, etc. Game of Thrones semble s'inscrire dans une logique qui n'est pas nécessairement aussi sombre que l'on pourrait le penser. Et ça sera mon dernier point.
Oui.
On associe généralement Game of Thrones au sous-genre de la gritty fantasy, donc davantage axé sur la manipulation politique et sur des intrigues violentes et tragiques. Alors, certes, on est bien ici dans un univers brutal, hein, dans une acception presque cliché des Dark Ages de fantasy, mais d'un point de vue narratif, c'est également un monde où les laissés-pour-compte parviennent à s'imposer individuellement dans ce jeu politique et social. Alors, cette façon de s'imposer passe par aussi une nécessité de briser les règles du jeu, hein, je passerai rapidement, mais l'idée qu'on ne peut pas jouer avec les règles qui nous sont imposées lorsque l'on ne correspond pas à ce que la société attend de nous. La valorisation des évincés de l'histoire est une attente de la fantasy et de cette tradition des contes de fées. Ce qui est intéressant, c'est que Game of Thrones permet à ces personnages de marginaux de jouer un rôle actif dans l'histoire du royaume bien avant de les unir dans une quête commune. Alors, Encore une fois, on va passer rapidement, mais la saison 7 est très éloquente à ce sujet parce qu'elle met en place ce que j'ai envie d'appeler forcément deux tables rondes de réprouvés ou de marginaux. Une au nord, davantage guerrier autour de Jon Snow, et une au sud autour de Daenerys. L'histoire dans Game of Thrones va désormais être prise en charge par ceux qu'elle avait mis de côté. Et c'est ce que Xarok Zoandaxos annonçait déjà. Those on the margins often come to control the center, and those in the center make room for them, willingly or otherwise. Il est à noter d'ailleurs que cette frontière entre héros traditionnels et réprouvés n'est pas hermétique, même si elle semble toutefois à sens unique. Et on pense notamment au cas de Jaime Lannister, figure de héros traditionnel qui devient marginal à partir du moment où il perd sa main. Par conséquent, Game of Thrones propose ainsi une histoire réécrite par et pour les laissés pour compte. Ce rôle de l'histoire et de l'évolution du statut de héros dans la fantasy de Game of Thrones montre à quel point la saga s'inscrit dans une longue tradition littéraire, et notamment celle des contes, et comment Game of Thrones joue avec ses nombreux héritages de la fantasy. Relire ainsi l'œuvre permet d'éclairer le parcours de certains de ces personnages marginaux. Alors, pour conclure, est-ce à dire que l'histoire de Westeros aura une fin heureuse à la « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ? Bon, je conclurai sur ces termes de nouveau de Pierre Péjus, qui nous parle du dénouement des contes et à quel point le dénouement est essentiel. Pour le moment, dans Game of Thrones, nous n'avons pas la fin, mais il rappelle, sans la fin, il nous reste une série assez discontinue d'éléments qui, du coup, nous paraissent plus étranges, plus inquiétants, parfois plus noirs, et surtout moins liés entre eux, tant c'est le dénouement qui a le rôle paradoxal de bien nouer le récit. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de contes qu'on ne croit, qui se terminent mal ou en queue de poisson et qui n'en sont parfois que plus marquants. Je vous remercie de votre patience.
Bon, eh bien, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont tu as utilisé les genres. J'ai horreur des genres, c'est un truc qui m'a toujours marbré. Mais là, le basculement de l'épique au conte, c'était vraiment très convaincant et très... Comment ? Très excitant intellectuellement. Enfin, après, bon, évidemment, c'est tout le problème. C'est y a-t-il une fin ? Y aura-t-il jamais une fin d'ailleurs ?
Alors, la série, oui, les romans.
Oui, mais la série, on est bien obligé. Je pense qu'une fois que la série sera finie, bon. Peu importe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, hop, ça commence. Alors là, on est parti. Non, mais tu mets Game of Thrones tout de suite.
Ben oui, je sais bien. Je tends le bâton pour faire battre.
Merci beaucoup pour la présentation. Alors, moi, j'aurais une question parce que. Alors, l'écriture hein, des romans, elle s'étend sur, par exemple, le 3 ou le 20 ans. Et il semble que au départ, il n'avait pas prévu de faire 7 tomes, que ça a évolué, je crois, quand même. Et du coup, est-ce que toi, tu as vu une évolution, peut-être, entre le premier tome et les suivants ? Est-ce qu'il voulait peut-être pas faire ça au début, tu vois, se mettre en avant tellement les gens, les marginaux, et finalement, ça s'est développé au fur et à mesure de l'écriture elle-même. Tiens, tel personnage-là va être intéressant et donc le débat. Par rapport au. Tu as dit que chaque chapitre, en fait, c'est un personnage.
Centré sur un personnage.
Est-ce qu'on arrive à voir, grâce à ça, par exemple, que certaines vont prendre. Certains vont prendre de l'importance, etc.
Alors, oui, effectivement, dans une certaine mesure, il y a déjà ça dès le début. On voit notamment des chapitres qui sont pris en charge même par des personnages très secondaires. Souvent on a les chapitres de prologue ou d'épilogue qui sont pris en charge par des membres de la garde nuit ou voilà, qui ont un seul chapitre. Des personnages qui permettent d'avoir un point de vue différent de la majorité voilà, de la noblesse qui domine ensuite l'ensemble du récit. C'est quelque chose qui est mis en place dès le début, mais qui va s'amplifier en fait petit à petit lorsque je pense que George Martin s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une brèche ici, il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Après, il a ses limites aussi, puisque on parle de personnages de marginaux. On a quand même une grande majorité de personnages blancs qui appartiennent à la noblesse et qui sont hétérosexuels. Donc la notion de marginalité est toute relative. La série télévisée a essayé de développer un peu plus ça en développant notamment le personnage de Rose, enfin Rose, la prostituée. Sauf que voilà, il y a des gros problèmes aussi dans cette représentation de la marginalité, puisque c'est un personnage féminin, déjà qui va être assez rapidement évincé, finalement, comme beaucoup d'ailleurs de personnages dans Game of Thrones, de toute façon. Mais on a une représentation qui n'est pas forcément idéale, comment dire, au sens où on a un personnage féminin, mais qui va très vite reprendre les grands clichés de la représentation du personnage féminin. Déjà parce que, étant donné que c'est une prostituée, elle va être intégrée à toutes ces scènes qu'on a appelées les scènes de sex position dans Game of Thrones, dans la série cette fois. C'est-à-dire, vous savez, on a des scènes où on a énormément d'informations à transmettre aux spectateurs, notamment des questions de complot ou d'intrigue politique. Donc on va faire pour que ces dialogues aient lieu dans un bordel. Comme ça, en arrière-plan, ou au premier plan d'ailleurs, on met des femmes toutes nues, ça va aider le spectateur. Bon, à voir si ça aide
ça
à la concentration.
Ça a fait pour le succès.
Mais ça, voilà, ça a contribué aussi énormément au succès, et c'est aussi une marque de fabrique de HBO. Il n'y a pas que dans Game of Thrones qui font ça. Mais voilà. Donc, cette représentation de la marginalité, est intéressante, parce que ce ne sont pas que les personnages de héros, mais aussi des figures secondaires, mais elle est toute relative dans Game of Thrones. Et par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans la communication de Caroline, là on est dans une marginalité voilà, toute restreinte en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
À qui passe-t-on le micro? Un candidat? Oui.
S'il y a pas d'autres questions, parce que j'ai vraiment l'impression de monopoliser le micro. Mais merci pour ton intervention, Lucine. J'avais jamais réfléchi avec, par rapport au compte, mais effectivement, moi, j'ai trouvé aussi que ça marchait très bien. Place des évincés, et je trouve que ça répond aussi bien à l'intervention de Caroline tout à l'heure. Il y a aussi vraiment une place des femmes dans Game of Thrones, donc elles ont encore plus pour le coup dans la série que dans les romans. C'est les femmes qui sont au premier plan. Et là aussi, ça brasse des enjeux en fait, qui me paraissent assez intéressants. Alors, je me permets une toute petite remarque par parenthèse, mais je me connais assez bien, je sais que tu ne voudras pas, donc j'en profite. Cette année, Amélie, je faisais un cours basé sur Game of Thrones à DL1 et DL2. À un moment, je faisais un cours sur la place des femmes au Moyen-Âge à partir de Game of Thrones. Et il y a une scène dans la dernière saison où formidable, Daenerys obtient son conseil de guerre à Dragonstone. Et en fait, dans le conseil, il n'y a que des femmes. Parce qu'il y a Aegon, il y a Olenna Tyrell, il y a Asha Greyjoy.
Il y a des femmes.
Et même les hommes qui sont là, en fait, sont des figures alternatives, puisque c'est des eunuques, puisqu'il y a Varys, il y a Théon,
des hommes marginaux aussi, à leur façon.
C'est des hommes marginaux. Donc, c'est vraiment une représentation très intéressante qui montre bien que la féminité, elle est du côté des femmes, et que les hommes, c'est pas des modèles de virilité classique, etc., puisque justement, ils ont été dépouillés de ce qui fait les hommes.
Alors, c'est vrai que, mais ça a été aussi. Alors, je ne vais pas dire critiqué, mais en tout cas nuancé par notamment Shadow Carroll, qui explique que quand on prend tous les personnages des Iron Islands, par exemple, où on voit qu'avant de prendre une décision, elle demande toujours l'avis de son frère. Alors certes, c'est son conseiller, mais effectivement, on a toujours cette idée qu'elle demande un petit peu l'approbation d'une figure masculine. Mais oui, il y a des progrès déjà dans la représentation des personnages.
Moi, dans la série, je trouve que dans les romans, c'est assez visible qu'elle a des conseils, même Bénélie, oui.
Ils ont vu qu'ils ont limité aussi le nombre de personnages, ils ont fait un choix intéressant.
Et c'était intéressant parce qu'au moment où je faisais ce cours et je montre cette image, il y a deux étudiants garçons qui se sont levés en râlant en disant que Game of Thrones, il avait marre parce qu'il n'y avait plus que des meufs et qu'il n'y avait plus d'hommes, qu'il n'y avait plus de place pour les hommes. Ce qui a provoqué que vous imaginez un débat assez vif, qu'on était en novembre au cours de l'affaire Weinstein et que quelques filles se sont permis de leur faire remarquer que c'était un peu gros. De râler, mais je trouve que c'était quand même assez intéressant de voir des hommes qui se sentaient menacés, en fait, dévirilisés, parce qu'effectivement, il n'y a plus de mecs, ils sont soit tous morts, soit handicapés, soit eunuques, soit nains.
Vous avez Jon Snow.
Voilà, heureusement, il y a
les compensent tous les autres.
Qui sont là pour rattraper ça, mais je trouve que c'était assez intéressant de voir que ça brasse quand même des enjeux sociétaux majeurs.
Je pensais pas que ça pouvait être aussi.
Qu'est-ce qu'on a fait aux femmes pour qu'elles ne suffisent pas à la contemplation des jeunes hommes en question?
Je sais pas, mais c'était quand même assez.
2000 ans d'oppression.
Ou normalement ça suffit.
Ça suffit, c'est bon. Ouais. Je crois qu'il y a William dans le fond.
Moi j'ai une question chiante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a. Dans Game of Thrones, il y a, pour moi, mouvement en fait, d'évincer, en l'occurrence, collectif, et c'est le mouvement du moineau, en fait. Là, pour le coup, on est dans une véritable question de classe, et tout, voilà, donc après, on pourrait discuter des jours et des jours pour savoir si ça apparaît tardivement dans la vie de Martin, est-ce que c'est une allusion au djihadisme, ou voilà, des choses comme ça, et tout, voilà. Tout ça, c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que je reviens, c'est ce que tu fais, de ce mouvement collectif-là qui apparaît, qui est clairement une question d'évincer en fait, hein, dans ton analyse. En fait, hein. Parce que là, c'est un personnage collectif, en fin de compte, parce que le moineau, il représente toute une population. Hein, mais voilà, donc c'est...
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient en fait très souvent, notamment dans les romans, les groupes d'évincés. Là, c'est vrai que je me suis focalisée sur les individualités, plus spécifiquement, puisque ça correspond davantage à la logique de conte que chercher à étudier. Mais effectivement, que ce soit avec les moineaux, les sparrows, on a ça aussi avec toute l'armée des Second Sons, qui sont notamment à Essos, qui sont littéralement, c'est comme ça, les deuxièmes fils, c'est-à-dire ceux qui, ne pouvant pas hériter du domaine et des richesses, etc., et du titre paternel, se retrouvent contraints de faire autre chose de leur vie, et ils vont fonder une milice sur un territoire externe. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment, cette idée d'union de personnages et de groupes qui sont laissés de côté, de groupes marginaux, qui sont contraints de s'unir pour pouvoir survivre et pour pouvoir avoir une force de revendication. C'est aussi ce qu'on retrouve avec au nord, avec autour du personnage de Mance Rider, qui explique que s'ils veulent survivre, ils sont obligés de s'unir. Et là, on retombe, alors forcément, moi je retombe dedans la tête la première, mais on retombe dans un schéma notamment arthurien sur la nécessité d'unir les peuples pour se défendre contre un péril plus grand que les simples petites querelles de voisinage. Mais après, je me méfie de ça parce que j'ai tendance à vouloir voir le roi Arthur partout. Voilà, c'est une déformation aussi. Mais c'est quelque chose qui revient très souvent et on voit que c'est important, en tout cas dans l'esprit de George Martin, cette idée que, regardez le nombre de personnages qu'on peut qualifier de réprouvés ou de marginaux dans Game of Thrones, il nous reste plus grand monde qui correspond à la définition traditionnelle d'un héros homme blanc, hétérosexuel. Parce que tout ce qu'on a, petit à petit, soit ils meurent, soit ils sont défigurés ou blessés d'une façon ou d'une autre qui font qu'ils sont rejetés de la société. Donc on se retrouve plus qu'avec des personnages de marginaux, avec une nouvelle dynamique qui se met en place, mais où on ne sait pas forcément d'où les coups vont partir, en fait. Ce qui est assez intéressant, puisque ça relance un petit peu l'intrigue. Après, on verra ce qu'ils nous font avec la fin de l'histoire.
Olivier ?
Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. En t'écoutant, je me posais la question, donc je te la pose. Finalement, la lecture que tu fais, qui est très fondée sur les caractéristiques des personnages et leurs interrelations, n'aborde quasiment pas la question du surnaturel, de la magie, des créatures, enfin de tout ce qui fait que ça n'est pas du médiéval historique ou du médiéval historiquement, mais de la fantaisie. Alors, est-ce que c'est un moteur auxiliaire sur le intrigue et que finalement tu fais l'impasse dessus parce que ça matche avec ce que tu dis et donc on n'en parle pas, ou est-ce qu'il y a une dimension propre aux éléments surnaturels qui irait dans le sens de ce que tu as décrit, notamment dans le rapprochement avec la logique du conte?
Alors effectivement, c'est une excellente question parce que j'avais commencé à creuser la question notamment des objets adjuvants dans la quête, forcément quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les contes et qu'on retrouve aussi dans Game of Thrones, mais c'est quelque chose qu'on a aussi de façon très traditionnelle dans la fantasy, de façon plus générale. Donc là, pour me limiter à 20 minutes, ce qui a déjà été difficile, j'ai mis de côté toute cette question, mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser, puisqu'on a une représentation du surnaturel qui ne correspond pas toujours à ce qu'on attend des contes ou ce qu'on a traditionnellement dans le folklore des contes. Donc c'est quelque chose de, comment, je vais pas dire de nouveau, mais qui est emprunté à d'autres branches de la fantasy et que j'ai du mal à relier avec les contes à proprement parler. Donc si tu as des pistes, je prends.
Ma réflexion en tout cas, c'est qu'on a, entre guillemets, pas de fée bleue, quoi. On n'a pas d'intervention surnaturelle qui mettrait tout le monde d'accord. On a une vision relativement surnaturelle et présente, mais de façon assez agnostique. On ne sait pas dans le sens de qui il fonctionne.
C'est ça. On le retrouve un petit peu avec le personnage de Bran Stark, notamment, la corneille à trois yeux qu'il devient, avec ce personnage qui va servir de Deus Ex Machina et qui arrive « Ah, mais moi, je sais que, en fait, c'est lui le véritable héritier. » Donc, on a un peu ce schéma-là qui est réutilisé ponctuellement, mais à travers des personnages différents, parce qu'on a aussi le personnage de Benjen Stark, qui va jouer ce rôle de temps en temps pour venir voilà, sortir les aventuriers de la galère où ils sont emprisonnés. Il arrive, il sauve tout le monde et il disparaît. Bon, ça devient presque une facilité d'ailleurs dans la série. Au bout d'un moment, ils tirent un petit peu sur la corde à ce niveau-là. Mais il n'y a pas une figure qui dominerait tout ça. J'ai l'impression que la notion de surnaturel est diffractée en fait entre les personnages en fonction de ce qui peut servir l'intrigue à ce moment-là en fait. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de pensé. Après, on verra avec la fin peut-être. Voilà, c'est ça.
Il y a Maureen qui avait une question aussi.
Je voulais rebondir sur. Vas-y.
Non, le micro.
Parce que du coup, j'ai un peu distrait sur Game of Thrones, mais sur la religion. Voilà. Et essentiellement, selon ce que j'ai vu, ce que je pense, le surnaturel dans Game of Thrones, c'est la juxtaposition du système religieux, du système théologique des différents peuples. Et en fait, ils marchent tous. C'est-à-dire que les adeptes de, je ne sais pas comment on sera alors, du Lord of Light, et ben ça marche, puisque ces prêtres, ils ont un charisme et ils peuvent ressusciter des gens. Et dans toutes dans les trois principaux systèmes religieux, ça marche.
Les trois marchent.
Les trois fonctionnent. Donc en fait, pour moi, après il y a la question, il y a d'autres questions. Au-delà du mur, c'est un peu différent. Je n'ai pas étudié cette question. Mais à l'intérieur de Westeros, Essos, de cet royaume, ce qui fonctionne, c'est la théologie de chacun des hommes. En fait, je pense. Et c'est pour ça que ça n'apparaît pas cohérent parce que ça ne l'est pas.
Voilà. Mais alors après, est-ce que les trois systèmes fonctionnent véritablement? Ou est-ce qu'il y a un système qui dominerait et qui influerait sur les autres sans qu'on arrive à le percevoir pour l'instant?
En fait, pour moi, c'est ça l'intrigue. Ouais.
Mais je pense que...
Quel est le véritable dieu de...
Est-ce qu'il y en aura un à la fin? Ou est-ce que ce ne sera jamais résolu? Et qu'en fait, on aura découvert que la genesis divine de chacune des religions fonctionne?
Ou est-ce qu'on a un dieu, voilà, un dieu dissimulé quelque part
à la Houdin? Il faudrait, à mon avis, dans ce domaine, il faudrait s'interroger de façon plus précise sur... on pourra le faire malheureusement qu'à la fin, c'est tout le problème. Il y a quelque chose qui apparaît assez nettement dans la définition même des mondes de fantasy, c'est que ce qui va définir les frontières d'un monde, c'est les frontières d'un type de fonctionnement du surnaturel. Et les frontières en question des différentes religions, là, elles correspondent bien à des parties différentes du royaume. Donc...
Pas vraiment.
Bah, elles se diffusent. Mais elle renvoie à chaque fois. Enfin, c'est des peuples particuliers. Et il faudrait voir si à la fin, effectivement, il y en a un qui l'emporte. Si à la fin, ils s'annulent les uns les autres. Si y en a dans l'eau qui sont de la manipulation, alors parce que c'est pas complètement exclu. Comment ?
Moi, j'ai une théorie sur ça. Ouais.
En fait, la série a exclu.
La série exclut quoi ?
La série a exclu l'idée que le culte de valeur
serait
un.
Oui.
C'est pas facile de se prononcer.
Non, après, il y a l'image de fantasy justement qu'on attend un peu. Et à la limite, j'espère qu'ils vont pas faire ça pour que ça soit quelque chose d'un peu plus original. Mais l'idée d'avoir une figure de roi ou de reine, mais qui va non seulement unir les peuples, mais unir les religions. Voilà, ça serait.
On peut unifier les formes du surnaturel. Elles sont pas totalement incompatibles. Quand même, elles sont lourdement contradictoires.
Ou alors, il faut imposer sa religion, mais. Tout de suite, c'est une ambiance un peu différente.
Ça peut être sympa.
À partir du moment où on a des dragons, on peut se permettre beaucoup de choses. Ouais. Je pense. Mais est-ce qu'il faut le faire? C'est la question.